ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. Si vous nous rejoignez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 31 mai 2023. Il fait toujours beau dans le Beaujolais et dans le Val-de-Saône également. Et on a des températures qui devraient monter jusqu'à 25 degrés cet après-midi. Voilà pour le programme météo. Dans notre émission, on parle d'alimentation avec Charline Simian, notre nutritionniste diététicienne. On parle économie et société avec le prof Patrick. Et avant ça, eh bien, on va passer un moment par téléphone avec Lydie Lucas, une artiste qui est partie pour la 4e fois en tournée à vélo avec sa guitare. Elle traverse la France du nord au sud pour de nombreux concerts dans des petites salles ou chez l'habitant. Et elle passe près de chez nous, notamment ce vendredi 2 juin au bar Au Comme Chez Soi à Ans. L'occasion de discuter avec elle de son périple et pourquoi pas de sa musique. C'est de la chanson française comme on l'aime, avec les mots et le message au centre de ce qu'elle fait, avec un brin d'humour amer aussi, et puis une fausse simplicité dans la musique, et puis de belles choses à raconter sur les gens et leurs relations humaines. Avant de retrouver Lily Lucas par téléphone et de discuter avec elle, je propose qu'on l'écoute. Voici un morceau qui s'appelle tout simplement « Laissez-moi peigner mon poney ». Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14, merci d'être avec nous.
Laissez-moi peigner mon poney, peigner, peigner, peigner mon petit poney. Laissez-moi peigner mon poney, peigner, peigner, peigner mon petit poney. C'est à ma sœur que je l'ai très discrètement volée. En secret la nuit je peux tresser sa crinière bleue. Laissez-moi peigner mon poney, peigner, peigner, peigner mon petit poney. Laissez-moi peigner mon poney, peigner, peigner, peigner mon petit poney. Je ne l'avouerai jamais, car si quelqu'un l'apprenait, ce serait trop scandaleux, et je deviendrais l'un d'eux. De ceux qu'on montre du toit, de ceux qui n'ont pas le droit de devenir des messieurs, des vrais hommes courageux. Je suis un garçon comme il faut. J'aime le foot et le judo. Je mets du gel dans mes cheveux, coupé en brosse. Qui dit mieux? Laissez-moi peigner mon poney. Laissez-moi peigner mon poney, peigner, peigner, peigner mon petit poney. J'ai bien compris la leçon sur les filles et les garçons, mais des fois j'aimerais mieux qu'on puisse être, faire, aimer comme on veut.
Ensemble sur Calade. 100.9 Calade.
Allez, tout de suite, on retrouve par téléphone Lily Lucas. Bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce que je peux vous présenter? Vous êtes chanteuse, auteur, interprète?
Oui, ma vie même, autrice, compositrice, interprète.
Très bien. Vous avez notamment sorti en 2019 l'album Laissez-moi peigner mon poney. Et aujourd'hui, vous êtes en tournée à vélo, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et vous êtes où aujourd'hui, du coup, là, tout de suite, maintenant, quand je vous appelle?
Tout de suite, je suis à Tournu. J'ai chanté hier soir à Ménetreuil, près de Louan. Et donc, je suis partie vers Lille, vers Arras même, le 5 mai. Ouais. J'ai commencé un concert là-bas. Et la tournée se terminera à Grenoble le 11 juin. Donc, du 5 mai au 11 juin, je vais faire 1500 km à vélo.
Ouais.
Et j'ai une vingtaine de concerts tout le long de ce périple.
Et c'est pas la première fois, je crois que c'est la quatrième tournée à vélo, c'est ça?
C'est ça, j'ai fait un premier tour de chauffe de 500 km en 2021, au déconfinement. Donc, c'était en Rhône-Alpes, de Chambéry à Clermont-Ferrand. Et après, j'ai démarré le fameux Tour de France. Je suis partie en septembre 21, donc j'ai fait Toulouse-Brest. Et en mai 2022, j'ai continué Brest-Lille. Et cette année, je fais Lille-Grenoble.
D'accord. Donc, traverser la France dans tous les sens, j'ai l'impression, c'est ça?
Voilà, je fais vraiment le tour, quoi. Je fais vraiment le tour par le bord, on va dire. Et puis, peut-être qu'après, j'irai au bord de la Loire. Ou peut-être qu'après, je ferai des trajets intérieurs, histoire de tout sillonner.
Ok. Et c'était quoi l'envie, la première tournée à vélo? C'est quoi qui vous a motivé, qui vous a fait partir?
Ben, en fait, je suis pas vraiment la seule à avoir eu cette idée-là au moment du déconfinement, parce que en fait, on a été beaucoup, les intermittents, à plus avoir beaucoup de dates de concerts, et on savait pas trop sur quel pied danser pour la reprise. Et du coup, on est pas mal à avoir lancé des appels pour aller jouer dans les jardins des gens. En plus, on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé, si on pouvait être le déconfinement. Il y a eu tous ces paliers où on savait pas si on allait être c'était quoi le couvre-feu à 5h, là, puis après à 7h.
Ouais.
Donc moi, l'idée, ça a été déjà de relancer la tournée en proposant des concerts chez l'habitant dans les jardins, puisque avec le Covid, on ne peut pas jouer à l'intérieur. Et en plus, on avait été confinés, donc une envie de grand espace, une envie de pédaler. Moi, je suis à la base, j'aime beaucoup faire du vélo et j'aime beaucoup les voyages à vélo.
Ouais.
Donc je me suis dit, autant allier les deux et allier l'utile à l'agréable et à l'écologique.
Bien sûr.
En plus, c'est plus facile d'organiser une tournée quand il y a un concept derrière, de trouver des dates et tout dans ce concept-là, c'est chouette.
Et moi, j'ai l'impression que c'est un truc plutôt solitaire, le vélo, en tout cas pendant le déplacement, mais qu'à contrario, du coup, ça crée des rencontres une fois qu'on est à l'arrêt, c'est ça?
Bah, en fait, ça dépend tellement des gens et des voyages qu'on fait. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'autres personnes qui voyagent de la même manière, j'ai l'impression. Par exemple, les tournées vélo, je connais plein de gens qui, par exemple, à Lyon, il y a un collectif qui s'appelle La Poursuite, ils font des tournées vélo en collectif.
D'accord.
Donc, je pense qu'ils font 20 km, ils pédalent, ils sont 15, ils ont une scène sur un vélo. Enfin, toute une autre histoire. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose de très solitaire. J'adore pédaler toute seule toute la journée jusqu'à quelque chose d'un peu méditatif. Et j'avoue qu'au moment où je pédale, je fais peu de rencontres parce que j'ai souvent beaucoup de kilomètres à faire dans la journée et puis que je suis un peu dans ma bulle, j'aime bien.
Ouais.
Et c'est vrai que les rencontres, j'ai fait beaucoup au moment des concerts puisque on a un métier qui est basé un peu là-dessus, quoi.
Sur l'échange humain,
sur
tout simplement.
Le rapport humain, oui, voilà. Que ce soit avec les gens qui nous accueillent, avec le public après les concerts. Du coup, c'est un bon équilibre pour moi parce que si je fais trop de social, j'ai besoin de
de s'isoler un peu.
J'ai besoin de récupérer derrière, donc c'est parfait.
D'accord. Et je me demandais, est-ce que vous avez des itinéraires tracés avec des objectifs? Chaque jour, il faut que je fasse, 30 km, etc., etc. Ou vous avez des points de rendez-vous et puis vous arrivez quand vous arrivez. Enfin, il faut arriver à l'heure pour le concert, mais si le trajet prend un jour de plus, c'est pas grave.
Alors non, c'est vrai que le trajet, il a été très précis. Enfin, une fois qu'il est calé, il est calé. Je peux. Ouais. J'ai pas trop de marge de. J'ai pas trop de marge de liberté à cause des dates, des concerts.
Ok.
Par exemple, parce qu'en plus c'est compliqué au moment de construire la tournée, puisque déjà il faut trouver des gens qui sont plus ou moins sur l'itinéraire.
Ouais.
Moi, par exemple, de Luxembourg à Lyon, je suis la voie bleue qui suivait la Moselle, qui est maintenant la Saône. Donc c'est une voie verte, donc c'est super parce qu'on peut pédaler sans voiture, enfin c'est trop bien. Mais du coup, trouver des gens qui ont envie d'organiser des concerts qui ne soient pas à 50 km de la voie bleue, pour que
et oui, bien sûr. Ouais.
De plus, que leur date, enfin qu'ils soient libres sur la date où potentiellement je vais passer vers chez eux, ça demande voilà, que beaucoup d'étoiles soient alignées. Mais à l'arrivée, voilà, on y arrive. Il y a des dates qui ne peuvent pas avoir lieu, du coup, parce que les organisateurs ne sont pas dispo au moment où je passe, et moi, je n'ai pas de marge de progression. Mais c'est vrai que tout est calé, c'est-à-dire, il y a un jour, j'ai joué à. Vers Nancy, à Soléol, là, sur une colline. Et 4 jours après, je jouais à Dole.
Ouais.
Et j'avais 380 km à faire en 4 jours.
D'accord. Et j'ai été gentil quand j'ai dit 30 ou 40 km par jour.
Là, j'ai fait 330 en 3 jours. Et après, il m'a resté 30 le jour du concert. Donc,
okay.
Du coup, j'évite les jours de concert de faire plus de 40, mais des fois, ça m'arrive. Entre Dole et Chalon, j'en ai fait 80, par exemple.
D'accord. Il y a une petite pression. Il y a une petite pression sur rien que sur la partie vélo, quoi. Faut réussir à tenir ses objectifs chaque jour.
En fait, c'est juste que mon itinéraire est déjà carré, quoi. C'est-à-dire que je dois aller à tel camping tel jour, et puis parce que je dors dans des campings, en fait, entre les. Contre les concerts. Ouais. Dans les concerts, je dors là où on héberge, quoi, là où je joue. Et c'est vrai que je dois atteindre ces objectifs-là. Après, je peux faire moins de kilomètres un jour, mais il faudrait que j'en fasse plus le lendemain. Donc,
Et quand on est. Quand on est autrice comme vous, vous écrivez des chansons, est-ce que la solitude sur le vélo et le mouvement, c'est quelque chose d'inspirant, le fait d'être, d'être en action, d'avoir cette routine de pédaler, ça fait aussi remuer dans la tête et ça donne des idées.
Carrément, en fait, ça dépend vraiment des jours. Il y a des jours où c'est où en fait je me sers plus du temps sur le vélo pour apprendre des chansons par cœur que j'avais envie de connaître et que. Enfin, c'est marrant, quoi. Des fois, je fais du travail pour des spectacles dans lesquels je joue et je me dis, bon, c'est le moment d'apprendre la chanson, parce que j'ai tout ce temps de cerveau disponible. D'autres fois, c'est des moments. En fait, en ce moment, je suis en train de préparer le prochain album.
Ouais.
Et plutôt que des idées de chansons, je retravaille dans ma tête les chansons que j'ai écrites récemment. C'est-à-dire, je me les chante en boucle. Et il y a des phrases qui, pour moi, sont pas encore.
Faut trouver le mot.
Pas encore bien. Et du coup, je la retourne en boucle pendant des heures et des heures sur mon vélo, parce qu'elle trouve la bonne formulation avec la rime, le bon nombre de pieds. Voilà.
D'accord.
Mais et puis des fois, j'ai des idées qui arrivent, et c'est sûr que c'est un peu méditatif, le vélo, les paysages, tout ça. C'est vraiment des ambiances de journée, quoi. Il y a des jours où j'ai l'esprit très libre et je peux trouver des idées et en effet les noter tout de suite dans mon téléphone avant que.
Ouais, c'est ça, faut pas qu'elles s'envolent.
Exactement. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça me donne un peu de temps que j'ai pas tellement sinon au quotidien. Parce qu'on fait. Comme je suis en autoproduction, j'ai plein de casquettes, quoi. Et souvent, l'artistique, il est moins. On a moins de place pour l'artistique, en fait.
Ouais, ça peut être frustrant parfois de se dire j'ai fait une carrière d'artiste et puis finalement je passe mon temps, je sais pas, à faire des réseaux sociaux, de la communication, des choses comme ça.
Oui, du booking, enfin ce qu'on appelle le booking, l'organisation des tournées.
Chercher les dates.
Réfléchir, chercher des dates et puis aussi surtout organiser, quoi. Parce que quand on fait des concerts, y a plein de coups de fil pour à quelle heure on arrive, qu'est-ce qu'on peut manger, de quoi j'ai besoin comme matériel, et puis machin. Enfin, en fait, il y a tout un travail de l'ombre quand on fait tout seul. C'est de la logistique, quoi. C'est beaucoup de logistique.
D'accord. Et je me demandais si.
Il y a 20 blattes.
Dans vos concerts, par exemple sur cette tournée, est-ce que vous chantez des chansons qu'on retrouve sur vos albums précédents ou c'est des morceaux peut-être un peu plus récents et qui n'ont pas encore été enregistrés?
Eh bien, il y a un peu des deux. Ouais. Là, je joue mon dernier spectacle qui s'appelle Laissez-moi tenir mon poney, donc le titre du dernier album, et qui, en fait, il y a un mix, c'est plutôt des anciennes chansons, enfin des anciennes, pas si vieilles, mais les chansons du dernier album.
Oui.
Mais j'en profite dans le spectacle pour glisser un peu des nouvelles, genre deux, trois nouvelles, pour pouvoir les relire un peu.
Et les essayer, voir comment ça marche, parce qu'il y a, y a de l'humour. Enfin, j'ai l'impression que, moi j'ai pu entendre que les versions enregistrées, mais j'ai l'impression que vous êtes une artiste qui est vraiment en relation avec le public et que vous allez chercher des réactions chez eux dans vos textes. Ça doit être assez interactif, un de vos concerts.
Oui, c'est très ça, Marie. C'est très ça. Quelle belle formulation, Lily. C'est très, très ça. Non, c'est exactement ça. Mon spectacle, il est un peu à mi-chemin entre l'humour et la chanson.
Ouais.
Même si c'est vraiment la chanson qui prend le dessus, statut stand-up, quoi. Mais il y a tout un rapport avec le public. Et en effet, une partie des chansons, mais pas toutes, parce que c'est très varié d'une chanson à l'autre. Mais une partie des chansons dont le vecteur est en effet l'humour et on est là aussi pour se marrer.
Ouais, mais c'est
un humour un peu grinçant quand même.
Oui, c'est complètement grinçant. Alors c'est loin d'être gras en général. C'est assez subtil et puis un peu amer. Et justement, faut être très précis pour que ce soit dans la chanson ou dans l'humour en général. C'est des questions de rythme et le bon mot au bon moment sur l'écriture, ça doit être plutôt exigeant comme type de chanson, non?
Oui, c'est vrai. C'est plus dur de... Enfin, pour moi, j'ai plus de mal à écrire des chansons drôles que des chansons pas drôles. Et en même temps, il y a beaucoup de sujets que j'ai du mal à aborder par un autre biais que l'humour, parce que je trouve que l'humour, ça fait réfléchir, en fait. Enfin, surtout pour ce qui est chansons engagées ou trucs comme ça. Et du coup, je préfère ce vecteur-là, mais en effet, c'est exigeant. Parce que, en fait, l'humour mal fait, c'est vraiment nul.
Oui, en général, oui. C'est assez exigeant, c'est ça. Et vous passez près de chez nous, vous serez en concert à Romanèche-Thorin le 1er juin, le 2 juin à Anse, et ensuite, tout le week-end, le 3 et le 4, vous êtes à Lyon, chez l'habitant.
C'est l'habitant, voilà. Donc Anse, ça s'appelle le Comme Chez Soi. Donc tout le monde peut venir. C'est un lieu public. Voilà. Donc n'hésitez pas à appeler le Comme Chez Soi et réserver pour venir. Donc c'est vendredi, hein, c'est ça?
Ouais.
Et je veux dire, Romanèche-Thorin, c'est chez l'habitant.
D'accord.
Donc a priori, c'est un concert privé. Mais si jamais vous m'écrivez des petits mots en message privé sur les réseaux.
D'accord.
Peut-être qu'on peut s'arranger.
Ok, bon, c'est noté.
En tout cas, c'est un concert privé.
Si on veut vous voir, le plus simple, c'est vendredi à Anse.
Vendredi à Anse.
Et du coup, moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait un album en préparation. Il faudra attendre combien de temps pour entendre un premier morceau enregistré quelque part?
Alors, je ne sais pas encore. On a calé des dates d'enregistrement avec la depuis les deux derniers albums. À Londres, à l'automne, là, donc sur septembre-octobre. Et l'album, c'est pas pour tout de suite. je dirais pas avant dans un an pour une sortie, quoi, au moins.
D'accord.
Mais il est tout à fait possible que sur les réseaux, je diffuse en live les petits inédits. Et puis, il faut venir me voir pour découvrir les nouvelles chansons.
En attendant, on peut écouter des goguettes qui sont des reprises, mais c'est pas vraiment des reprises. Vous changez juste les paroles, c'est ça?
Ça m'arrive dans... Là, ça fait longtemps, en fait. Ma chaîne YouTube, j'ai plein d'idées de vidéos à faire, mais j'ai pas pu les faire. Donc, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, il y a parfois des goguettes, parce que j'aime bien pratiquer cet exercice. C'est donc on reprend la musique d'une chanson connue, mais on change les paroles.
Ouais.
Il y a un groupe qui s'appelle les Goguettes entre Oméa 4 qui a percé là ces derniers temps.
Ils sont très marrants. Des Lyonnais aussi ou...
Très drôle. Non, c'est des Parisiens. En fait, parce que moi, je suis parisienne, même si je suis lyonnaise aussi. Et du coup, à Paris, ces personnes, les quatre d'une vitrine, se sont rencontrés à une salle ouverte de Goguettes.
Ouais.
Qui a lieu tous les lundis, pas très loin de chez moi. Et du coup, moi, j'y vais aussi souvent, donc je les connais bien, les copains. copain, quoi. Mmh. Et du coup, il y a plein de gens qui pratiquent la goguette et qui écrivent des goguettes, des amateurs, des pros. Enfin, c'est super.
Ouais, et c'est excellent.
Et moi, j'aime bien en effet.
Très bien. Bon, bah, merci beaucoup. Puis je rappelle que bah, pour vous voir en concert, il y a le 2 juin à Anse, ce vendredi au Comme Chez Soi. Et puis on vous retrouve sur les réseaux sociaux, Lily Lucas, tout simplement.
Oui, et puis il y a toutes les dates de la tournée jusqu'à Grenoble. Les deux dernières dates de la tournée sont publiques aussi le 10 juin à Sillon, en Isère, il y a un festival sur le Sentier des Arts, là où je vais jouer. Ouais. Et le 11 à la Tête Bleue, c'est une date publique, donc si vous connaissez des Grenoblois, faites passer le mot.
On leur passe le mot, parfait. Merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup.
Ensemble sur Calade. À la maison, les petits veulent des frites aux spaghettis, pas de soucis. Je suis très large d'esprit. Je suis open. À la caisse, les clients me passent souvent devant. C'est marrant. Ça tombe bien, j'ai tout mon temps. Je suis open. À la terrasse du café, je me fais tout le temps siffler. C'est ok. Suffit de se laisser aller. Je suis open. Le mardi, j'ai cours de yoga, ça m'ouvre les chakras, je suis open. Quand je voudrais, des je t'aime, mon mec me dit qu'il a la flemme, pas de problème. Je vais pas l'obliger, quand même, je suis open. Les gosses, la maison, le chien, ils s'occupent de rien, mais tout va bien. C'est comme ça, le quotidien, c'est open. L'autre jour, j'ai surpris ma sœur avec mon chéri, don't worry. J'ai pas trop d'a priori, je suis open. Quand j'ai besoin d'être un peu tranquille, un petit coup de Lexomil, je suis open. Force un peu la nuit, et même quand j'ai pas envie, je suis polie. Je serre les dents et je dis oui, je reste open. Et puis quand il perd la boule, et puis quand il se défoule, je reste cool. Un peu de fond de teint et ça roule, je reste open. 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 Open.
C'était Lily Lucas sur Calade avec le titre Open. Je rappelle qu'elle est en concert donc ce vendredi au Comme Chez Soi à Anse.
Vous n'allez pas manger des choux par-ci après des tripes.
Ensemble sur Calade.
C'est pas bien bon ça.
Alimentation, santé.
Oui, on parle d'alimentation et de santé avec notre diététicienne et nutritionniste Charline Simian. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, on a commencé une série ensemble sur la digestion. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on mange ? Dans le dernier épisode, on a parlé de l'estomac, on a visité l'estomac. Alors, ne voulant pas dire de bêtises, je vous demande à vous, qu'est-ce qui se passe après ?
Alors, il se passe que, comme on l'a évoqué la dernière fois, l'estomac laisse passer des aliments qui sont de très petit volume dans la partie suivante qui est l'intestin grêle. Okay. Alors, cet intestin, au global, il fait à peu près entre 5 et 7 mètres de long. Ouais. C'est ce qu'on appelle communément dans le jargon les boyaux. Mmh. Oui, c'est ce qui sort dans les films un peu sanglants, là, voilà. Ouais. C'est celui-ci. Et donc, on ressort de l'estomac avec quelque chose qui est très acide. Et pour éviter, justement, d'agresser la paroi intestinale, il y a tout en place des synthèses de choses qui vont, justement, tamponner et qui vont rendre plutôt basique le bol alimentaire qui s'appelle à ce moment-là un chyme.
D'accord. Et donc, rendre basique, c'est réduire l'acidité, c'est ça ?
Effectivement, c'est réduire l'acidité et faire revenir à un pH de l'ordre de 8-9, quelque chose qui va être ni trop acide, ni trop basique, et qui va donc être toléré par les cellules qui composent cette paroi intestinale, cellules qui sont extrêmement importantes, parce que c'est, on l'a vu, la phase mécanique gastrique, donc c'est là où on casse les gros morceaux alimentaires ou les plus petits morceaux alimentaires pour en faire vraiment quelque chose qui soit facilement utilisable. Et dans l'intestin, c'est le siège de toute la digestion microscopique, on va dire. C'est-à-dire qu'on finit de couper les graisses en acides gras. Les acides gras, c'est ce qui va être utilisé par l'organisme. On finit de couper les protéines en acides aminés, qui sont les petites billes qui composent les protéines et qui vont être utiles. Et on va réabsorber également le glucose, qui lui aussi est la molécule qui va être utilisée par l'organisme. Nous, on ne mange pas du glucose pur, on va manger du sucre de table qui n'est pas du glucose pur, on va manger de l'amidon, et ensuite l'organisme va le débiter en tout petits bouts pour pouvoir l'utiliser. Pour ce fonctionnement-là, il y a plusieurs choses. Je vous ai dit que la longueur totale de l'intestin était à peu près 6-7 mètres. En réalité, il faut imaginer l'intérieur de l'intestin recouvert par une paroi qui n'est pas lisse, mais qui est en réalité plein de petites vaguelettes. Okay. Et sur chaque micromètre carré de ces petites vaguelettes, il y a des cellules avec des petits poils qui vont donc augmenter la surface d'absorption. C'est-à-dire que la surface d'absorption intestinale sur cet intestin qui est long, ça finit par faire la surface d'un terrain de tennis. C'est très d'actualité le tennis, je crois.
Oui, c'est une bonne référence.
Donc la surface d'absorption totale, si on devait mettre à plat la surface d'absorption de notre intestin, ça recouvrirait un court de tennis.
C'est donc immense.
Ça fait... C'est énorme. C'est énorme.
Pourquoi c'est aussi grand ? Pourquoi c'est aussi grand le 7 mètres d'intestin, je me dis, peut-être un petit tuyau de 20 cm, ça suffirait. Pourquoi est-ce qu'il a fallu avoir 7 mètres d'intestin ?
C'est pour que les choses aient le temps de se faire. En réalité, on pense toujours, parce qu'on la ressent, que la digestion, c'est quelque chose qui va durer de l'ordre de 1 à 2 heures, quoi, parce que c'est le temps gastrique qu'on analyse. En fait, ce qui va se passer, c'est que la digestion, elle se continue bien après. Ouais. Et en fait, le siège de ce qui va être le carburant et de ce qui va pouvoir nous servir est dans cet intestin. Et il faut du temps parce que, en fait, il y a un équilibre très important. Enfin, il y a des équilibres qui sont très importants dans l'organisme, qui est ce qu'on appelle l'équilibre hydroélectrolytique, c'est-à-dire l'eau et ces petits bouts de nutriments, et on doit avoir un certain équilibre. Si on avait trop court d'intestin, la surcharge serait trop importante et l'organisme ne serait pas en capacité, il serait débordé dans ses fonctionnements, en fait.
D'accord.
Donc en réalité, la digestion, selon, elle va durer entre 6, 8 et 10 heures à peu près. Et une digestion totale entre l'entrée et la sortie.
Ok.
Donc on va avoir toutes ces absorptions, et ces absorptions, elles vont se faire grâce à un certain nombre de choses, alors des glandes notamment, qui vont aider, je pense notamment au pancréas, qui va aider à la digestion des sucres, essentiellement grâce à une hormone qu'on appelle l'insuline, qui fait rentrer le sucre dans les cellules. C'est-à-dire, quand on a notre morceau de glucose, c'est bien, mais il va falloir l'aider à passer cette fameuse barrière intestinale, parce que le glucose, nous, on l'évalue dans le sang et pas dans l'intestin, et on s'en sert quand il est dans le sang, ce sang qui amène à tous les endroits où il doit être distribué. Et en fait, ce passage-là, il est extrêmement important, donc de la barrière intestinale, donc de l'extérieur, en fait, de l'extérieur de l'organisme, à l'intérieur de l'organisme, le sang. Il faut imaginer, en fait, ce fameux tuyau digestif comme, en fait, l'extérieur de l'organisme.
D'accord.
Et on va avoir également la vésicule biliaire, vous en avez certainement tous entendu parler, cette vésicule qui va en fait se contracter au moment où elle voit passer, alors elle n'a pas d'yeux, hein, je vous rassure, mais du gras, et en fait elle va faire une espèce de mayonnaise qui va permettre d'émulsionner le gras et de le faire passer. Le gras ne va pas passer tout seul la barrière justement, parce que cette barrière elle est plutôt... hydrique, et donc du coup bah, le gras et l'eau ça se mélange pas, donc si on fait pas une mayonnaise à un moment donné le gras ne passera pas, c'est le problème de certaines personnes qui vont plus avoir de vésicule et qui vont avoir des difficultés justement à digérer ces matières grasses.
D'accord. Il y a une autre, moi je pense au foie du coup peut-être qui agit aussi à ce moment là mais
Alors, le foie, oui, parce que il va envoyer un certain nombre de choses. Le foie c'est plutôt un organe de détoxification où justement le sang va passer et où il va être purifié. Et donc, en fait, les déchets produits par le foie sont effectivement aussi envoyés dans l'intestin. Parce que l'intestin, dans sa partie terminale, est plutôt rempli de déchets, mais ça, on le verra une fois prochaine. Il y a effectivement le foie qui est quand même plutôt haut dans cette chaîne intestinale.
Bon, ça s'appelle comment déjà? Vous m'avez dit la nourriture qui se balade dans l'intestin, c'est le...
Le chyme.
Le chyme, voilà, un mot à se rappeler pour briller en société.
Exactement, alors je ne sais pas si c'est vraiment brillant, mais tout à fait, ça peut être un mot intéressant. On peut dire entérocyte aussi, qui sont les cellules qui font la paroi de l'intestin.
Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du parcours.
Tout à fait, avec plaisir.
Et puis ce soir à 18h30 dans l'émission Parlons Nutrition, au programme, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, on va discuter de bonheur avec justement quelqu'un que j'ai eu bonheur à recevoir, qui est un invité de marque, qui est Yannick Descharmes et qui est psychologue.
Parfait, merci beaucoup Charline, à tout bientôt.
Merci bien.
Ensemble sur Calade.
Allez, ben, j'ai essayé de glisser le foie, mais en fait, il n'y était pas. Tant pis, on écoute quand même Les Forces de l'Ogre avec un morceau qui s'appelle « Il était un foie ».
Un amour éperdu de mes forces de l'orge.
Il était un foie.
Il était un foie.
Il était un foie. Il était un foie. Un café pour la Corse que la tendance inverse. Rituel sans entorse, bière pression. Voilà, faire l'hydrater l'écorce pour préparer la messe. Dès ce matin, c'est la noce, on viendra allumer la neige. Il était un foie. Un estomac si fier qu'on lui faisait des éloges. Il était un foie, un peu chabrioche. Un amour éperdu de l'efforce, de l'orge. Il était un foie.
Il était un foie.
Il était un foie. Il était un foie. Il était un foie.
Aussi garce que comparse, bois ma bière en double croche. La petite sœur rouge me fâche, pas trop fais pas ta belle doche. C'est un truc qui tabasse, qui m'arrache avec la poche. Quand j'en refais surface, tout devient clair comme de l'eau de poche. Je voudrais soigner la croche, mais l'alcool qui s'attache rend la tâche pas fastoche. Et vu tout ce que ça cache, je suis pas prêt de plus être poche. Je suis pas prêt de plus être tâche. Même tremper la pistache dans un quelqu'un, c'est plus festoche. Il était un foie, la bière dans ta gorge. Un estomac si fier qu'on lui faisait des éloges.
Les Forces de l'Ogre sur Calade avec Il était un foie, un morceau qui nous rappelle tout simplement que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, il est l'heure de retrouver le prof Patrick, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, la politique industrielle, on en est au...
Troisième épisode, messieurs, dames, troisième et dernier épisode, après on pourra parler de choses plus légères. Donc, dans nos parties précédentes, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la politique industrielle, ça consiste pour la puissance publique à utiliser tout un tas de moyens pour favoriser le développement ou à minima le maintien d'une activité industrielle dans notre pays en France, mais aussi dans l'Union européenne. On va parler aux deux niveaux, hein, toujours. On a vu que cette politique a été menée activement par les gouvernements français après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au début des années 80. Mais, mais que à partir de là, la conception allemande au niveau européen et même au niveau français, la conception allemande qui est très différente s'est imposée. Et la conception allemande, c'est que l'intervention se limite strictement à faire respecter les bonnes conditions de la concurrence. C'est ce qu'on appelle la politique de concurrence. C'est cette conception qui s'est imposée à partir des années 80 dans l'Union européenne et en France. Donc, exit la politique industrielle à l'ancienne, en quelque sorte. Dans la deuxième chronique, on a vu que les 30 dernières années, entre les années 80 et aujourd'hui, eh bien, ça a été celle d'un déclin progressif et irrésistible de l'industrie française. Et on a donc convenu, Mathieu, dans cette troisième chronique, de parler du retour en grâce de la notion de politique industrielle, aussi bien en France que dans l'Union européenne. Mais, avant, je vais répondre à une question que tu as posée hors antenne, cher Mathieu, qui est la suivante. Si les 30 dernières années ont été, on l'a compris, celles du déclin industriel en France, est-ce qu'il en a été de même dans le reste de l'Union européenne ? Eh bien, la tendance globale dans les pays d'Europe de l'Ouest, hein, soyons précis, comparons ce qui est comparable, a été identique ces 25 dernières années, c'est-à-dire un recul de la part de l'industrie dans le PIB de chaque pays. Mais l'Allemagne en particulier et l'Europe du Nord en général sont des zones où ce recul a été bien plus réduit. Il a été maintenu, ce recul, dans des limites acceptables. Des chiffres pour illustrer ça, la part de l'industrie dans le PIB allemand est de 22%. Je rappelle que la France, c'était 13-14%. La part de l'Allemagne, de l'Autriche, c'est identique. La part de la Suède et du Danemark, c'est pas loin derrière. Même le Portugal et la Belgique font mieux que nous, 3 points de plus. D'accord. Notez que depuis 2000, ce recul se voit aussi aux États-Unis.
D'accord.
Et se voit aussi, devine quoi, en Chine.
Ah ouais, ah pourtant on a l'impression que c'est le qui récupère.
Mais ça nous dit une chose, ça nous dit qu'il n'est pas illogique que la part de l'industrie dans la création de richesses d'un pays moderne recule. Hein, parce que le pays atteint un stade où c'est du post-industriel qui prend le relais. Le problème, c'est que la France recule plus que ses principaux pays concurrents. La question, c'est pourquoi ? La question que tu m'avais posée, c'était, c'était ça, c'était pourquoi ?
Pourquoi la France
Voilà. Eh bien, une des principales raisons, ce ne sera pas la seule, mais je vais m'arrêter sur celle-ci parce qu'on a autre chose à faire, sinon il faut qu'on fasse cette troisième chronique. En comparant avec les pays d'Europe du Nord, Allemagne comprise, c'est que notre industrie, je mets de côté l'industrie du luxe, qui est un cas particulier en France, mais pour le reste de l'industrie française, eh bien, cette industrie française n'a pas su sortir suffisamment de ce que j'appelle l'ornière de la compétitivité prix. La compétitivité prix, c'est être compétitif en étant le moins cher possible. Or, la France, enfin les autres pays d'Europe du Nord et l'Allemagne, ont évité ça en allant dans ce qu'on appelle la compétitivité hors prix, c'est-à-dire vendre de l'innovation, vendre du prestige, vendre de l'image de marque, etc. Tout ce qui permet de justifier des prix plus élevés. Le problème, c'est qu'en face, il y a un paquet de pays qui avaient des atouts autrement plus sérieux que nous pour faire des prix bas, faire de la compétitivité prix. Donc, notre industrie a plus reculé que les industries d'Europe du Nord. Bref, venons-en maintenant au cœur de notre chronique d'aujourd'hui. En quoi, c'est quoi cette nouvelle politique industrielle qui réapparaît depuis le Covid ? Bah oui, le Covid, lors du Covid, on s'est vite aperçu dans l'Union européenne du caractère stratégiquement dramatique de nos dépendances vis-à-vis de la Chine. Et depuis qu'on a compris que la transition écologique dans tous les pays doit se faire en diminuant cette dépendance vis-à-vis de l'Asie en général et de la Chine en particulier. Alors côté Union européenne, je vais d'abord commencer par l'Union européenne, par la politique industrielle version Union européenne. Eh bien, évidemment, je vais m'arrêter uniquement aux mesures qui ont un caractère de nouveauté. Je vais laisser les mesures qui sont la continuation de la politique de la concurrence. C'est vraiment cette période du Covid qui a accéléré ce que j'appelle le changement de paradigme dans l'Union européenne, d'accord ? Les mesures avant, c'était quoi ? C'était des mesures ponctuelles d'exemption. On disait, tiens, tel secteur, on va accepter des aides d'État, mais c'était extrêmement rare. D'accord. Dans la règle générale, c'était interdiction d'aide d'État au secteur industriel en général. On est passé à un nouveau paradigme où on va dire, oui, il y a un certain nombre de secteurs, bien plus nombreux qu'avant, pour lesquels on autorise des aides d'État. L'Union européenne autorise que les pays individuellement, les puissances publiques, aident les entreprises dans ces secteurs donnés sous la forme d'appels à projets, en quelque sorte. Tous ces secteurs, c'est massivement des secteurs des technologies numériques et des énergies renouvelables. Et donc aussi une grande attention portée à ce qu'on pourrait appeler l'autonomie technologique de l'Europe, c'est-à-dire l'idée que l'Europe devienne de moins dépendante des États-Unis et de l'Asie pour la technologie. On est mal barré. Enfin, il y a du boulot, quoi, en quelque sorte. Cette stratégie, elle, en 2021, a donc complété la stratégie qui était en place à partir de mars 2020. Alors, diverses mesures concrètement pour traduire ce que je viens d'expliquer. Des mesures pour réduire la dépendance dans certaines matières premières, dans certains principes actifs de médicaments, dans certains composants comme les semi-conducteurs, on a fait une chronique il y a longtemps. Des mesures pour favoriser le développement d'alliances industrielles dans des domaines stratégiques comme les processeurs, les semi-conducteurs, les données industrielles, le cloud, les lanceurs spatiaux, l'aviation à émissions nulles. Tout ça, on incite à des alliances industrielles entre entreprises privées européennes. Le but, c'est de rendre l'Union européenne autonome dans tous ces domaines. Des mesures pour accélérer la transition écologique. D'accord, il s'agit d'atteindre ce fameux objectif de 50% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030. 50% par rapport au chiffre de 1990.
D'accord. Ouais.
Donc, beaucoup de mesures pour aider à atteindre cet objectif. Donc, du soutien à l'industrie dans ce domaine-là. Des exemples emblématiques. Eh bien, on a eu une initiative franco-allemande sur les batteries, avec une levée de fonds, alors un apport de fonds d'1,2 milliard d'euros de la puissance publique franco-allemande et un objectif de lever des fonds privés pour compléter à hauteur de 5 à 6 milliards d'euros. Même type de projet sur l'hydrogène, d'accord. On a une quinzaine de projets autour du projet global hydrogène avec 7 milliards d'euros de financement public à l'horizon 2030 dans ce domaine-là. Quelques nouveautés dans la politique industrielle, des nouveautés notables. On parle maintenant ouvertement de mettre en place des mesures de défense commerciale face aux politiques de dumping, qui est la pratique généralisée de la Chine depuis 20 ans. On parle même de projets, de mesures d'ajustement carbone aux frontières qui consisteraient à dire, eh bien, on va taxer les entreprises qui, elles, n'ont pas à supporter toutes les exigences que les entreprises européennes ont vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre. Bon, c'est pas gagné, il y a encore des négociations, des pays sont réticents à mettre ça en place, mais on en parle, avant c'était tabou. Alors, si on parle un peu d'argent, bah, on a déjà en 2020 un plan de relance européen qui a quand même posé sur la table 750 milliards d'euros, c'était pas rien. On a eu ensuite, sur la période 2021-2027, 96 milliards d'euros qui s'ajoutent en soutien à la recherche et à l'innovation. Donc des sommes non négligeables, mais disons-le clairement, ce n'est pas encore au niveau des montants qu'investissent d'un côté les Américains, d'autre côté les Chinois.
C'est pas suffisant.
Non, c'est pas encore au niveau. Passons au niveau français maintenant, parce que là j'étais au niveau européen. En 2021, on a annoncé un plan qui s'appelle le plan France 2030, avec 54 milliards d'euros sur 5 ans, pour agir dans des domaines comme l'hydrogène vert, les énergies renouvelables, la décarbonation de l'industrie, etc. etc. Ce plan s'ajoute au plan de relance français de 100 milliards d'euros en 2020, qui fixait des axes assez proches. Donc vous voyez, au niveau français, aussi une certaine somme non négligeable pour vraiment aller très activement dans de la politique industrielle. Tout ça, c'est donc ce que propose l'Union européenne à la France en termes de politique industrielle. Désormais, on est revenu sur une vraie politique industrielle. Mais on n'est pas seul au monde, messieurs, dames. On a en face de nous des concurrents et on va se centrer sur deux grands concurrents, les États-Unis et la Chine. Et ils ne sont pas en reste, hein. Ils ne sont pas restés à faire dodo. Donc, les États-Unis d'abord. Eh bien, le 16 août 2022, le Congrès américain a voté une loi qui s'appelle Inflation Reduction Act, l'acte de réduction de l'inflation. À dire, ah bon, c'est une loi sur l'inflation? En fait, pas du tout. C'est une loi qui n'a rien à voir avec l'inflation. C'est une loi pour réindustrialiser les États-Unis avec un axe prioritaire de réindustrialiser dans le domaine des énergies. De l'industrie qui aide à lutter contre le réchauffement climatique.
D'accord.
Bon, alors, vous allez me dire, bon, c'est des montants assez costauds, mais c'est pas tellement le montant global en dollars qui est inquiétant dans ce plan, qui est vis-à-vis pour les Européens. C'est en fait le fait qu'il contient des mesures protectionnistes. Je m'explique. Il contient des mesures qui sont destinées à attirer sur le sol américain des entreprises du monde entier, dont des entreprises européennes et asiatiques et américaines, etc. Comment ? Eh bien, en imposant des conditions pour bénéficier de l'aide financière de ce plan. En gros, les conditions, je simplifie, c'est produire sur le sol américain. Ouais. Donc, on se retrouve avec des entreprises européennes, par exemple, des grandes entreprises industrielles européennes, allemandes notamment, très puissantes, qui se retrouvent avec un dilemme. Puisqu'elles avaient prévu d'investir sur le sol européen vis-à-vis des plans industriels que j'ai cités précédemment. Sauf qu'en face, elles se retrouvent avec le plan américain qui propose à peu près les mêmes sommes, avec en plus un accès à un marché américain qui est toujours plus assez costaud quand même par rapport au marché européen, hein, mais surtout avec un coût de l'énergie qui est extrêmement bas aux États-Unis.
Ah ouais.
Les États-Unis sont autosuffisants sur le plan énergétique. Donc ils ont un coût d'énergie alors que le prix de l'énergie a explosé en Europe. Et là, donc, ça fait quand même un gros dilemme parce qu'ils sont très attirés par ce plan américain, et ils sont très tentés de délocaliser et de, ou alors de ne pas réaliser les investissements en Europe pour aller les réaliser sur le territoire américain. Passons à l'Asie maintenant. Ouais. Pour info, l'Union européenne est avec le Japon la zone économique qui a le plus reculé face au développement de l'Asie. Alors, donc c'est elle qui en a plus le prix plein la figure. Parlons de la Chine à l'intérieur de l'Asie, c'est quand même le poids lourd, le mastodonte. La Chine, elle a mis en place des plans d'investissement massifs, elle aussi, par exemple, 130 milliards d'euros juste pour les semi-conducteurs. Juste pour les semi-conducteurs, ce qui est très au-dessus de ce qu'a mis sur la table l'Union européenne. Les seules importations chinoises, je donne quelques chiffres pour bien montrer la pénétration de l'industrie de la Chine dans le territoire de l'Union européenne. Les seules importations chinoises représentaient 6% des importations de l'Union européenne en 2000. C'est passé à 11% lors de la crise de 2008-2009. C'est passé à 14-15% juste avant le Covid. Et on est à 18% aujourd'hui. Donc on voit que la Chine pénètre de plus en plus par ses performances l'économie européenne et est de plus en plus présente. À terme, on sait très bien que l'économie russe va être globalement intégrée dans l'ensemble chinois, parce que la Russie n'a pas de choix, vu qu'elle est en conflit avec l'Occident, de se, entre guillemets, soumettre aux géants chinois. Et ça va encore accentuer la puissance d'influence de la Chine. Donc voilà, alors, conclusion globale de cette trilogie sur la politique industrielle et sur ces nouvelles velléités de l'Union européenne et de la France de revenir à une vraie politique industrielle, eh bien, le changement de doctrine donc de l'Union européenne, le retour de la politique industrielle, c'est un point de départ intéressant, mais ça ne suffira pas en l'état pour affronter les Chinois et les Américains. L'Union européenne, pour autant, a montré ces toutes dernières années, depuis le Covid, qu'elle sait être beaucoup plus réactive qu'autrefois. D'accord, et ça, c'est un point très intéressant. Ouais. Et donc, on verra si elle saura se mettre à niveau et prendre sa place dans ce combat de titans, ou si elle reste dans son comportement d'avant, qui est de traîner et prendre du retard. Voilà. À suivre.
Ok, très bien. Et bah, pour une saison 2 dans quelques mois.
Exactement.
Merci beaucoup, prof Patrick. À bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.
Allez, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Elle sera retrouvée sur radio-calade.fr en réécoute, en rediffusion sur notre antenne demain matin à 10h. Et puis moi, je vous retrouve demain à 12h12 pour un nouveau numéro. Et dans quelques instants, vous retrouvez vos pages d'information quotidiennes, le journal de RFI et le journal de Sylvie Rosier. À 13h10, très bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Et à demain. Ciao, ciao.